vous suit.
Voici les titres du journal.
Le mois de mars est synonyme de prévention de l'endométriose. L'association valaisanne Les Petits Rubans, créée il y a 3 ans, continue sa mission de sensibiliser la population à cette maladie exclusivement féminine. Un préavis municipal va être prochainement soumis au conseil communal d'Aigle. Il demande un crédit d'ouvrage de près de 1,3 million de francs pour rénover l'avenue du cloître. La commune de Chardonne veut sensibiliser les promeneurs à l'importance écologique de la forêt du Mont Pèlerin. Un sentier didactique et ludique à destination des familles et des écoles verra le jour au printemps 2026. Et puis enfin, les Diablerets accueillent ce week-end un double événement sportif mêlant ski alpinisme et course à pied sur neige. D'un côté, la Diablerets 3D et de l'autre, le Trail Blanc.
Pour la météo, du soleil dans l'ensemble aujourd'hui, du soleil aussi pour ce week-end. Météo complète à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Léa Journeau. Bonjour Léa.
Bonjour Axel, bonjour à tous. Le mois de mars est jaune et il est synonyme de prévention de l'endométriose. À l'image d'octobre rose pour le cancer du sein, cette maladie exclusivement féminine, l'endométriose a aussi son mois de sensibilisation. Depuis 3 ans, l'association valaisanne Les Petits Rubans se mobilise pour faire de l'information et de la prévention auprès de la population. Et la parole se libère désormais sur l'endométriose et surtout auprès des femmes qui en souffrent. La mission de l'association n'a toutefois pas changé, mais elle a quelque peu évolué. Sandrine Marie Turmetraillé, présidente des Petits Rubans.
Elle est différente aujourd'hui puisqu'on se rend compte que c'est vraiment le grand public qui joue aussi un rôle important. Et on a voulu mettre en place des soirées qui ont pour thème l'endométriose, une femme sur 10, mais tous concernés. Et en fait, dans ces soirées, on se rend compte de vraiment l'impact que ça a et la prise de conscience collective. Et que ça aide pas mal de gens à comprendre aussi leurs proches qui sont atteintes, ou parfois une collègue, une employée pour un employeur. Donc c'est aussi très important et on voit l'impact que ça a. Puis on aimerait en organiser plusieurs dans ce sens-là aussi.
Il y en a déjà eu une qui a attiré 70 personnes, on le voit. Voilà, il y a un intérêt.
Oui, il y a clairement un intérêt aujourd'hui et on voit que les choses bougent à tous les niveaux et c'est important.
Plusieurs rendez-vous sont organisés en plus de ces soirées, notamment lundi à l'hôpital de Réna où des membres de l'association seront présents toute la journée pour répondre aux questions des visiteurs.
Le festival Gueule Ouverte fait son retour à la Villa Mirage à Martigny.
Pour sa 2e édition qui se déroule jusqu'en mars, de nombreux événements sont mis sur pied avec comme point central l'expression, une manière de faire découvrir au public différentes disciplines artistiques autour de cette thématique. Cécile Giovannini, artiste et cofondatrice du festival, raconte comment est née l'idée de cette manifestation.
C'est avec un ami qui s'appelle Achille Carangua, qui est journaliste. On se connaît depuis longtemps maintenant et on a toujours beaucoup discuté, beaucoup échangé. Et c'est vrai qu'on a tous les deux un amour particulier pour le verbe, pour les gens qui s'expriment bien, pour les gens qui ont de la verve, justement. Et puis, nous-mêmes, lui au travers plutôt de la plume, et puis moi, pas dans mon métier d'artiste visuel, mais dans d'autres cadres, j'aime beaucoup discuter, j'aime beaucoup valoriser justement ces moments d'échange. Et puis c'est comme ça qu'on a eu cette idée, on a eu envie d'inviter des gens avec qui on aurait eu du plaisir à discuter, à échanger et à entendre aussi ce que elle et eux avaient à dire.
Et parmi les différents événements à venir, figure notamment la présentation de clips vidéo réalisés par les élèves de l'École de Culture Générale de Martigny, ça ce sera ce soir, ainsi qu'une soirée d'échange autour du deuil.
La municipalité d'Aigle continue de rénover ses rues.
Place maintenant à l'avenue du Cloître qui fait le lien entre le centre-ville et le château. Un préavis municipal sera prochainement présenté au conseil communal afin d'accorder un crédit d'ouvrage de près de 1,3 million de francs sur la rénovation de cette rue limitée à 30 km/h. Une rénovation discutée depuis longtemps au sein de la municipalité et du conseil communal. Grégory Deveau, syndic d'Aigle.
On a rencontré depuis les années 2010 la nécessité de pouvoir rénover cette route sous l'angle des conduites. C'est d'abord ça qui guide la plupart du temps la rénovation d'infrastructures. Donc on parle d'eau usée, on parle d'eau potable et tout autre service qui s'intègre dans la route. Mais nous ne souhaitions pas à l'époque simplement juste refaire la route, mais d'apporter une plus-value dans et en direction de la place du marché, bien sûr, du centre-ville, puisque c'est un cheminement qui est extrêmement important, principalement pour les piétons, qui lie le centre-ville au secteur du cloître et du château, et puis qui revêt un caractère historique aussi d'importance. Donc ça, c'est un travail qui a été fait ces dernières années, repris de projet en projet, et puis finalement intégré dans ce qu'on appelle le schéma directeur des espaces publics. Et puis aujourd'hui, le timing est bon, il y avait la priorité qui était mise sur le reste du centre-ville et les abords immédiats de l'hôtel de ville, et puis désormais, c'est ce chemin qui est nécessaire d'être fait dans son entier.
Et si le crédit d'ouvrage est accepté par le conseil communal, les travaux pourraient commencer en novembre prochain.
La commune de Chardonne veut valoriser sa forêt au Mont-Pèlerin.
Le législatif a approuvé mardi la construction d'un abri forestier et d'une plateforme d'observation en rondin pour 370 000 francs. Cette structure en bois offrira un lieu de rencontre en plein air pour les familles et les écoles et sera au cœur d'un nouveau parcours nature didactique de la région. Prévu au printemps 2026, le sentier ludique traitera des enjeux écologiques qui entourent l'univers forestier. Réparti sur près de 2 km, 9 postes thématiques permettront aux promeneurs d'approfondir leurs connaissances sur la forêt environnante. Les précisions de Gilbert Cavin, municipal en charge des domaines de Chardonne, au micro d'Anthony Dacampo.
Vous allez d'abord rentrer par un endroit qui s'appelle la Maison Jean. Donc, il y aura une explication sur le rôle de la forêt par rapport à l'eau, comment c'est régénéré, et puis où arrive l'eau du Mont-Pèlerin. Donc, c'est déjà ça, vous aurez une information. Après, vous allez voir apprendre quelles sont les différentes espèces qui vivent dans cette forêt. Donc, c'est les espèces végétales. Vous allez pouvoir aussi comprendre ce que c'est une forêt qui se régénère. Et puis, enfin, vous allez pouvoir mesurer le vieillissement des arbres avec une vieille souche. Vous allez pouvoir aussi faire un petit détour par le poudin du Mont-Pèlerin. C'est une sorte de roche très compacte qui vient de l'époque glaciaire. Donc au fond, vos enfants et vous allez apprendre beaucoup de choses sur un territoire que normalement vous parcourez souvent, mais peut-être que vous n'avez pas toutes les informations.
Le refuge et l'itinéraire forestier de Chardonne bénéficie également d'un large soutien financier d'institutions locales telles que la taxe de séjour de la région. Les cantons doivent pouvoir choisir s'ils veulent organiser l'examen final en culture générale dans la formation professionnelle sous forme écrite ou orale. Le secrétariat d'État à la formation a mis en consultation aujourd'hui le seul point controversé de sa réforme. La Suisse aurait tout intérêt à s'aligner sur l'Union européenne pour protéger les forêts tropicales. C'est la conclusion d'une analyse commandée par l'Office fédéral de l'environnement. Cette étude évalue les coûts et les bénéfices d'une reprise du règlement de l'Union européenne. Dès 2026, certaines matières premières ne seront acceptées sur le marché européen que si leur production n'a causé aucune déforestation. Cela concerne notamment le cacao, l'huile de palme et le bois. Le Conseil fédéral a décidé l'an dernier de ne pas adapter le droit suisse, mais cette étude montre qu'une reprise intégrale du règlement européen est le scénario le plus avantageux. L'analyse est rigoureuse et crédible, estime Romain Devez, expert en matières premières agricoles au WWF Suisse.
La mise en œuvre intégrale du règlement sur la déforestation importée, c'est ce qui offre largement les plus grands avantages environnementaux en évitant 50% de déforestation supplémentaire par rapport à un scénario où on ne fait rien. Et les coûts supplémentaires pour les entreprises sont simplement entre 35 et 50%. Donc ce scénario est le plus viable au niveau environnemental et a du sens aussi économiquement. Cette étude ne prend pas en compte tous les coûts environnementaux. Elle prend simplement en compte les émissions de carbone liées à la déforestation, qui ont une forte valeur. Mais si on commence à intégrer d'autres coûts environnementaux, comme par exemple les services écosystémiques que les forêts produisent ou la valeur de la biodiversité dans ces régions tropicales, on pourra largement chiffrer ces coûts environnementaux à 10 fois plus élevés. Et dans ce cas-là, c'est sûr que le scénario sera encore plus probant.
Des propos recueillis par notre correspondante parlementaire Marie Vuillemier. L'analyse conclut que seule la reprise intégrale du règlement européen garantit la sécurité juridique et la compétitivité des entreprises suisses. On ne sait pas ce que la Confédération va faire de ces résultats. Nos questions sont jusqu'ici restées sans réponse. On passe au sport et de jeunes gymnasiens ont choisi de mettre sur pied une course de ski, le trophée du DAHU, dans le cadre de leur travail de maturité. Adeptes de sport de glisse, Antonio Pinto Pereira et Mathilde Jacquard, étudiants au gymnase de Chamblanc d'Appuy, se sont confrontés à l'organisation d'un événement sportif sur les pistes des Crozets. Budget, inscription, communication, ils ont dû relever tous les défis pour que le géant de demain soit une réussite. La course populaire compte déjà une centaine d'inscrits répartis dans une vingtaine de catégories. L'intégralité des bénéfices seront reversés à l'association morginoise Harris Wright for Research, qui a pour objectif de récolter des fonds pour soutenir la recherche contre les glioblastomes. Si vous souhaitez vous inscrire, c'est possible de le faire encore jusqu'à 17h aujourd'hui sur le site créé pour l'occasion trophéedudahu.ch. Un mot de ski cross. Fanny Smith a signé son premier succès depuis 2023 sur le front de la Coupe du Monde. Aujourd'hui, la Vaudoise s'est imposée à Goudaouri devant l'Italienne Jolie Galli et la Canadienne India Sherrett. En Géorgie, la Vaudoise a terminé la première en quart de finale, en demi-finale et en finale pour ainsi remporter sa 32e course de Coupe du Monde.
Les Diablerets accueillent ce week-end un rendez-vous sportif et populaire mêlant ski, alpinisme et course à pied sur neige.
Et d'un côté, la Diablerets 3D qui célèbre sa 15e édition et qui propose trois parcours dont l'épreuve reine de 28 km. De l'autre, le Trail Blanc, un événement unique dans la région puisqu'il se déroule en plein hiver avec des distances de 20, 10 et 1 km pour les plus jeunes. Une manifestation pour deux disciplines, de quoi donner du fil à retordre au comité d'organisation. Son président Jonathan Busset nous explique les différences qui existent notamment en ce qui concerne la préparation des parcours.
Les sports sont assez différents, mais pas tant que ça, en l'occurrence, étant donné que le terrain est quand même passablement le même. Alors oui, on ne le fait pas au même endroit dans la station, mais c'est vrai qu'il y a quand même un certain nombre de choses à faire attention, notamment la sécurité des coureurs. Et on passe quand même dans des zones qui peuvent être à risque au niveau des avalanches, au niveau de glissement de terrain, etc. Le trail est peut-être un peu plus facile à organiser en termes de conditions météorologiques et d'enneigement, parce que c'est vrai que pour le ski alpinisme, on a besoin de neige, jusqu'à preuve du contraire. Et puis pour le trail, on peut un peu plus s'adapter, mais c'est plus ou moins les mêmes conditions.
En raison de la saison, ces conditions peuvent parfois être difficiles, notamment concernant les températures, raison pour laquelle les consignes de sécurité ainsi que les recommandations d'équipement sont les maîtres mots du comité d'organisation. Des rappels nécessaires, comme nous le confirme son président Jonathan Busset.
On n'a pas forcément tendance à penser ça en termes de course à pied, mais il fait froid. Donc on incite les coureurs à prendre des habits chauds, malgré tout, quand même de porter des chaussures qui vont, parce que le sol est glissant, malgré le fait qu'il n'y ait pas de la neige sur tous les endroits, mais on change vraiment d'environnement. Et puis pour ce qui est du ski alpinisme, alors là, on est presque légiféré, j'ai envie de dire, avec les règlements, que ça soit de l'ISMF ou bien du Club Alpin Suisse, qui eux nous demandent un certain nombre de matériel selon le terrain, avec des normes. Je pense notamment à chaque année, on a le cas des longes, parce qu'on a une arête sur laquelle on passe, pour laquelle les participants sur un des parcours doivent être encordés. Et chaque année, on a deux, trois petites spécialités, malgré le fait qu'on le martèle sur les réseaux sociaux, dans notre règlement, on a même mis des photos cette année avec quoi faire, quoi ne surtout pas faire, on va dire. C'est vrai que chaque année, on a des choses comme ça.
Un sujet signé Ludovic Turin. Et puis on termine par du ski alpin et l'Autrichienne Cornelia Hütter a remporté aujourd'hui la descente de Kvitfjell devant l'Allemande Emma Eicher et l'Américaine Brizzy Johnson. Les Suissesses ont-elles terminé hors du top 10 en Norvège?
L'actu en continu sur radiochablais.ca.